Radio Cité Genève présente Nectar, l'émission consacrée à l'œnologie.
Bonjour à tous, vous êtes sur Radio Cité. Nous sommes au domaine de la Clef de Sol, qui se trouve sur le Crêt de Chouilly. Au domaine de la Clef de Sol, pour rencontrer Daniel Suliger, vigneron bien entendu, et pour évoquer un sujet que nous n'avons pas encore abordé, bien que nous ayons franchi le cap des 100 émissions sur Radio Cité, eh bien, c'est le sujet du gel. On a lu dans les quotidiens récemment que le gel avait frappé passablement le vignoble genevois et nous allons savoir un petit peu ce qu'il en est et ce que cela représente et comment les vignerons, en l'occurrence, peuvent tout de même essayer de s'en sortir. Voilà. Alors, quel est le bilan du gel? Est-ce que c'était pour 2024 un gel particulièrement sévère? Est-ce qu'il a touché certaines régions? Est-ce que vous êtes indemne?
Alors, le domaine de la Clef de Sol est bien situé sur le coteau, donc on n'a pas eu de dégâts directs de gel. Mais certains collègues qui ont des domaines, disons, un peu sur les bas des coteaux, où le gel, le froid s'accumule, ils ont eu des dégâts assez importants.
Alors souvent, on dit en pourcentage. J'ai vu des photos d'un vignoble qui est pas loin d'ici, qui est à Dardagny, à Sertine plus précisément, où le vigneron déclarait « ce parchet est détruit à 100%. » Alors, qu'en est-il en gros du pourcentage? Est-ce que la récolte est compromise? Est-ce que les genevois vont manquer de leur chasselas habituel?
Alors, évidemment que la récolte est compromise, mais certains cépages, la vigne est quand même assez résistante, elle repousse, elle peut refaire un deuxième bourgeon, suivant les yeux, et il peut y avoir des grappes. Mais bien sûr, ça sera plus une, deux, trois grappes, ça sera une petite grappe par-ci, par-là, donc il y aura des récoltes fortement diminuées. Alors, certains vignerons qui sont, comme vous dites, d'Ardagny, près du Jura, ont été fortement touchés, parce que le gel s'est accumulé, descendu du Jura, et s'est accumulé dans leurs parcelles, et ils ont des dégâts très importants.
Voilà. Donc vous dites qu'il y a des repousses, ça implique qu'il y aurait en somme deux vendanges, une première vendange pour les rescapés, une seconde vendange pour les nouveau-nés?
Alors, la vigne a été traumatisée par ce gel, on peut le dire comme ça, et ça veut dire que pendant 3 semaines, 1 mois, la végétation est bloquée. Après ce temps, les bourgeons repoussent, mais c'est clair qu'à la vendange, il y aura des retards de 15 jours, voire 3 semaines sur la vendange, ce qui va poser des problèmes de vinification.
Voilà, une autre question que je me suis posée, mais elle est un tout petit peu perverse. On sait que aux effeuilles, on supprime de toute façon des grappes. Et on sait que peu avant la vendange, si on estime qu'il y a un peu trop de marchandises, sur les cèpes, eh ben, on fait une vendange verte. Donc, est-ce qu'il ne faut pas minimiser les pourcentages quand on dit, voilà, 50% a été perdu?
Alors, je suis un peu de votre avis parce que sur le fait, on voit beaucoup de dégâts, mais la vigne est quand même assez...
Elle est résiliente.
Ah, tout à fait, tout à fait. Et je pense que, je dirais sur Genève, un pronostic de 30% serait déjà raisonnable. Mais malheureusement, dans les autres cantons, ils n'ont pas eu autant de gel qu'à Genève. On est un des seuls vignobles vraiment touchés en Suisse.
La question que l'on se pose aussi, quand on est profane comme moi, c'est de dire, mais en somme, quels sont les cépages qui sont les plus vulnérables? Parce qu'on peut imaginer que les cépages traditionnels anciens du canton de Genève ont la vie dure, ils résistent, ils font face. Mais dans le même temps, on peut se dire que les cépages plus méridionaux sont vulnérables.
Alors ça, quand vous descendez à moins 3, moins 4, moins 5, comme il s'est passé il y a un mois, je crois que tous ces cépages confondus, il y a du dégât. Ça c'est sûr, à moins 5, il y a eu moins 5, hein, ça c'est sûr, à 4 heures le matin. Là, je pense que tous ces cépages est touché. Par contre, à moins 1, moins 2, c'est vrai qu'il y a des différences entre les cépages. Il y a des cépages un peu plus résistants que d'autres.
Voilà, ici et là, on voit dans certains vignobles, mais j'imagine que c'est une tâche harassante, on voit des chaufferettes. On a vu quelques images de vallées comme ça, tout illuminées, mais les chaufferettes, c'est un travail inimaginable. Il faut les allumer, il faut enfin mettre du carburant, etc. Est-ce que c'est une parade qui est efficace ou bien est-ce qu'on est obligé d'y renoncer?
Alors, vu les surfaces des domaines genevois qui sont entre 10 et 15 hectares, mettre des bougies dans 15 hectares d'un domaine, ça coûterait trop cher. Donc, il y a des vignerons qu'on choisit de protéger des cépages dits nobles, comme le Sauvignon, des cépages assez valorisants au niveau financier. Ils ont essayé de préserver plutôt 2-3 parcelles que tout un domaine. C'est, à mon avis, et financièrement, c'est pas possible d'avoir des bougies ou des brûlots ou des ce que vous voulez pour protéger 15 hectares. C'est financièrement, c'est pas possible.
Donc, en résumé, c'est un travail coûteux, c'est un travail harassant qui mobilise du personnel et c'est pas une voie qui permet de sauver les récoltes. On est obligé de s'incliner devant la nature en définitive.
Tout à fait. On a eu l'exemple de 2017 où des gens ont mis des bottes de paille en bas des parcelles, ont mis des bougies et ils ont fait ça une nuit, deux nuits, la troisième nuit. Ils ont dit, on est sauvés, et c'est la quatrième nuit que ça a gelé. Donc, ils ont fait tout ce travail pour rien. Donc, c'est vraiment très aléatoire.
Voilà. Alors, maintenant, je me mets à la place du vigneron, dont le vignoble a été complètement affecté, ses vignes ont été complètement grillées. Qu'est-ce qu'il va se passer pour lui? À savoir, est-ce qu'il est assuré, par exemple?
Alors, on peut associer à l'assurance grêle, donc Suisse Grêle, qui assure les vignes des gens qui veulent être indemnisés en cas de roche de grêle, on peut ajouter un dégât de gel sur une parcelle.
C'est une option, en somme.
C'est une option, mais si vous n'avez pas d'assurance grêle, vous ne pouvez pas vous assurer que pour le gel.
D'accord, voilà. Donc, le vigneron qui sera assuré contre la grêle et pour le contre le gel pourra finalement, même s'il n'a pas de récolte, bon voilà, c'est une déception bien entendu, il pourra quand même s'en sortir, il pourra survivre.
Alors il pourra être indemnisé, mais vu la prime qui est quand même assez élevée, le calcul fait que à moins de 40% de gel, c'est pas jouable au niveau financier. Cette assurance est faite pour les gros gels de 50, 60, 70%. Alors, il y a des domaines à Genève qui sont dans ce cas-là, et j'espère qu'ils sont assurés. Eux, ils vont toucher de l'argent contre le gel.
Voilà, très bien. Alors, on est content de savoir que le vigneron peut s'en sortir, finalement. Je m'inquiète maintenant du consommateur. Est-ce que on risque de manquer de vin genevois dans ces circonstances, ou bien est-ce que des stocks, peut-être relativement anciens, permettront-ils de faire la soudure?
Alors ça, c'est, je pense à tous les propriétaires de domaines de le dire. Je pense que les situations se différencient d'un domaine à l'autre, donc je peux pas vous dire, au point de vue général, ce qui va se passer sur le vignoble genevois. Mais je pense qu'il y aura toujours des bons vins excellent à boire sur Genève pour l'année prochaine.
Voilà, donc je vous talonne. Par exemple, d'ici décembre, en décembre, je ne risque pas de ne plus trouver de chasselas dans le commerce le plus proche.
Dans la cave la plus proche, je pense pas.
Voilà, très bien. C'est le mot de la fin, très bien. Vous avez bien parlé, Daniel Tulliguer.
Santé à tous.
Il faut aller chez le vigneron de proximité. C'est là que vous rencontrerez un homme de terroir, un homme qui sait exactement dont il parle et en qui vous pouvez avoir confiance. Voilà, chers auditeurs, je vous accorde une pause musicale.
Radio Cité Genève.
Radio Cité Genève.
Radio Cité Genève présente Nectar, l'émission consacrée à l'œnologie.
Vous êtes bien sur Radio Cité ? Seconde tranche de notre émission Nectar. Eh bien, nous venons de parler du gel, qui est une calamité face à laquelle les vignerons sont impuissants, qui touche de temps en temps notre vignoble, et donc nous avons à déplorer sur Genève des pertes qui seront substantielles, mais comme nous l'avons dit, nous ne risquons pas de manquer de nos produits du terroir. Voilà. Eh bien, Une autre difficulté pour le métier de vigneron, c'est toute la charge administrative qui lui échoue. Vous avez peut-être, comme moi, une vision assez poétique du métier de vigneron. On se le représente en train de tailler la vigne, sécateur en main. On se le représente sur son enjambeur, dans la nature, effectuant des travaux de cave, par exemple. Mais vous pouvez aussi vous le représenter à son bureau, assidu à son bureau, pendant des heures et des heures, interminables. Voilà. Alors les vignerons, évidemment, il y a beaucoup de frouilleurs, il y a des fraudes, il y a, enfin bref, toutes sortes de micmacs avec le vin. Donc les vignerons, les caves, sont soumis à contrôle. Et régulièrement, le vigneron reçoit la notification d'une inspection. Il reçoit une circulaire qui provient du canton de Zurich, c'est-à-dire plus précisément de Dubendorf. Elle émane du contrôle suisse du commerce des vins. Voilà, l'intitulé sur la convocation, contrôle obligatoire des livres et des caves, notification de la prochaine date d'inspection. Alors, chère madame, cher monsieur, etc., etc., je saute quelques paragraphes et vous lis de nouveau, afin de garantir le bon déroulement de l'inspection, nous vous prions de préparer les documents pertinents pour le contrôle conformément à l'annexe. L'annexe qui est donc récapitulative. Nous vous prions également de mettre à la disposition de l'inspecteur un poste de travail calme avec accès Wi-Fi. Il se présentera à l'heure indiquée à l'adresse suivante, donc suit l'adresse du vigneron. Et puis une petite précision, parce qu'il faut que les inspecteurs soient des incorruptibles, n'est-ce pas ? Étant donné que le CSCV est un organisme d'inspection accrédité selon la norme ISO IEC 17020 et qu'il est surveillé par la Confédération, les inspecteurs ne peuvent recevoir ni cadeau, ni invitation, ni autre avantage. Alors pour le vigneron, il s'agit de présenter armes. Et qu'est-ce qu'il doit présenter ? Eh bien, il existe des établissements viticoles sous divers statuts. Il y en a qui font du négoce, il y en a qui ne vendent que leur production, il y en a qui collaborent. Donc, il y a entre certains domaines toute une perméabilité qui rend le contrôle complexe. Ça, c'est vrai, mais toutes les entreprises doivent présenter au moins ceci. La comptabilité de cave, depuis la dernière inspection jusqu'à la date d'inspection nouvelle. Et encore, liste de toutes les ventes, si celles-ci sont enregistrées globalement à la fin de chaque mois sur la carte comptable correspondance. Et par ailleurs, toutes les factures d'achat et de vente, y compris des importations et des exportations, classées dans l'ordre alphabétique et chronologique. Et de plus, récapitulatif annuel des ventes afin de pouvoir retracer le chiffre d'affaires déclaré les années précédentes. Et encore, inventaire de tous les produits vitivinicoles établis le jour de l'inspection avec indication des lieux de stockage, caves ou dépôts extérieurs. Vous voyez, le contrôle est impitoyable. Et enfin, liste de prix pour chaque type de clientèle. Comme je vous l'ai dit, la solidarité s'exerce entre vignerons et il y a une collaboration, il y a une complémentarité, souvent pour le matériel, et il n'est pas rare qu'un vigneron fasse vinifier sa récolte chez un collègue. Alors, vinification par des tiers, eh bien là aussi, l'autorité veille. Voilà ce qu'il faut présenter. La liste d'encavage répartie entre production propre, achat et encavage à façon pour des tiers, subdivisée par cépage, classe de vin et appellation d'origine, région, canton, commune, lieu dit. Voilà, on est précis ou on ne l'est pas. Mais c'est pas tout. Droit de production acquis, établi par canton. Fiche de cave, établi par canton. Livre de cave ou rapport ordre de cave comportant des opérations de coupage, assemblage, mise sous verre, etc. Il y en a encore, on n'est pas au bout de la liste, on n'est pas au bout de nos peines. Liste des cuves, fûts et autres vases vinaires avec indication des numéros et capacités. Étiquette, contre-étiquette complète pour tous les produits vinicoles propres et de tiers, certificats pour les utilisations de labels, par exemple bio suisse et autres. Voilà. Alors, je vous ai lu les paragraphes A et C, il y a encore B, D, E, mais au total, au secours. Donc, les vignerons sont accablés, ils doivent souvent engager du personnel administratif pour faire face à tant d'obligations. Vous ne pouvez que vous les représenter, remplissant très très souvent des registres, un travail fastidieux. Alors, je ne dis pas que les contrôles sont injustifiés, simplement, les vignerons croule sous la tâche administrative. Et je vous rappelle qu'il y a environ 2 ans, nous étions allés au domaine de Guiramu à Essertine, et il avait pris un peu la tête de la lutte des vignerons qui disent « Oui, on veut bien les contrôles, on n'est pas contre le principe lui-même. Par contre, on ne veut pas être assimilé à des négociants, au prétexte que nous vendons du vin, des négociants qui peuvent commercialiser des millions de litres de vin. » Voilà. Eh bien, je vous accorde, après vous avoir saoulé de ma lecture énumérative, je vous accorde une pause en compagnie de Mozart.
Radio Cité Genève.
Radio Cité Genève.
Radio Cité Genève présente Nectar, l'émission consacrée à l'œnologie.
Vous êtes sur Radio Cité, c'est l'émission Nectar, troisième et dernière tranche de notre émission numéro 117. Nous avons appris avec tristesse la mort de Bernard Pivot. Bon, il était plutôt jeune, c'est le sort, c'est l'ordre des choses, mais nous apprécions beaucoup le personnage parce que il réussit un tour de force. Son tour de force, c'est d'être un grand classique, un littéraire, un membre de l'Académie Goncourt, un écrivain, donc quelqu'un de Châtier, quelqu'un qui est attaché à la tradition, mais en même temps un moderne, qui traite sur un ton vivant des questions d'actualité, qui n'a pas peur d'employer des mots argotiques et qui est dans la familiarité. Alors, sur le sujet du vin, eh bien, c'en est un excellent exemple. Il est à la fois très calé et à la fois très familier. Il a horreur des prétentieux, il aurait horreur des compliqués, il a horreur du snobisme, il sait prendre le vin pour ce qu'il est, c'est-à-dire simplement un merveilleux produit que l'on aborde de façon personnelle et en toute liberté. Alors, voilà, dans une ancienne émission, je vous avais parlé de son dictionnaire amoureux du vin. Alors, il a bien soin de le préciser. Ce dictionnaire n'est pas une encyclopédie des vignobles, des cépages, des appellations, de leur classement, des travaux de la vigne, des techniques œnologiques, ni une histoire universelle de la vigne et du vin, ni une antithologie littéraire et artistique, ni un traité politique, juridique, médical, religieux, sur un sujet très sensible. Voilà qui occuperait combien de dizaines de volumes. Alors, qu'est-ce que c'est son dictionnaire amoureux du vin? Eh bien, c'est simplement l'itinéraire d'un vrai amateur. Bernard Pivot est né dans les vignes, à Quincier, en Beaujolais, c'est pas très loin de Morgon, de Brouilly, qui produisent d'excellents crus. À Quincier, si vous y rendez, vous en ferez le constat, il n'y a que des vignes, il n'y a pas des champs de blé, de colza, de maïs ou autre. Le Gamay triomphe à Quincier, en Beaujolais. Voilà. Alors, voilà, j'aimerais vous donner quelques aperçus quand même de ce dictionnaire amoureux. Une chose importante pour Bernard Pivot, voilà ce qu'il écrit exactement. Les vignerons sont des auteurs, des artisans, des artistes. Les meilleurs signent leurs œuvres. Donc, le vigneron, comme un cuisinier, est un artiste. Le vigneron n'est pas simplement le producteur d'une boisson, c'est pas simplement celui qui fait pousser des raisins, c'est celui qui signe une œuvre d'art parce que le vigneron, comme artiste, cherche à décrocher la lune et à faire le meilleur vin du monde. Alors voilà, donc on révère le vin. On révère le vin au travers d'une citation. Donc l'ouvrage de Bernard Pivot ne manque pas de citation. Citation, proverbe, dont on ne sait pas l'auteur, je vous la lis. « Qui sait boire, sait aimer. Qui sait aimer, sait boire. » Alors l'acte d'aimer, donc l'acte sexuel, l'acte de chérir quelqu'un, eh bien, ne peut pas être accompli dans la distraction. On s'y met tout entier, on y déploie toute sa sensibilité. Eh bien, pour le vin également. Le vin, ce n'est pas simplement le fait d'étancher sa soif. Je n'aime pas d'ailleurs que l'on parle des vins de soif. C'est le fait de déguster réclame la plus grande attention. Et au bout de cette attention, on trouve une admiration pour la magnificence du produit. Voilà. Maintenant, ce livre touche forcément, puisque c'est l'itinéraire d'un amateur, presque tous les sujets. Je vous dis quelques sujets sur lesquels vous trouverez des choses intéressantes et force anecdotes. La chaptalisation, le goût de bouchon, le vin de messe, la Saint-Vincent, qui est le patron des vignerons, la complexité, le vin et la guerre, le sexe et le vin, etc., etc. Et puis, ce qui est savoureux sous la plume de Bernard Pivot, c'est aussi tout un vocabulaire, tout un lexique qui est presque argotique. Alors, il est très moqueur. Par exemple, il désigne les érudits du vin comme les pipelets de la pipelette. C'est une jolie trouvaille. Le café du coin, pour lui, c'est un gorgeon, c'est un zin, c'est un troquet, c'est une guinguette. Un mauvais vin, ça peut être un torboyau, ça peut être un picrate, etc., etc. Donc, les mots ne lui manquent pas et la langue de Bernard Pivot, une fois encore, est extrêmement colorée. Voilà. Alors, ce qui est important de dire, c'est que Bernard Pivot a presque toujours bu avec beaucoup de mesure, avec modération, comme on dit. Il reconnaît avoir été une fois ivre dans sa vie, mais ça ne s'est pas produit une seconde fois. Et il écrit, et c'est un avertissement peut-être pour tous les amateurs, « On ne me trouvera pas parmi les élateurs ni même les défenseurs de l'ivresse. Trop de crimes, trop d'accidents, trop de brutalité, trop d'horreur, en actes et en paroles, trop de folie, trop de déraison, trop d'hébétude, trop d'absence de soi-même, comme si un autre, violent, baveux, titubant et idiot, s'était glissé dans un corps déserté à prendre. Le pire de l'homme, le pire état de l'homme, écrit Montaigne, c'est quand il perd la connaissance et le gouvernement de soi. » Ça n'a pas empêché Bernard Pivot, dans une émission d'apostrophe qui est restée dans beaucoup de mémoires, le genre de choses qu'on n'oublie pas, il avait invité Charles Bukowski, donc le poète canadien, ce poète assez marginal, qui s'était saoulé sur le plateau, qui avait demandé à voir à portée de main des bouteilles de Sancerre. Il les sifflait dans un glou-glou incessant, il se remplissait la panse d'alcool, etc. Il a proféré des insanités jusqu'au moment où François Cavanna, qui était sur le même plateau, lui a dit « Ta gueule, Bukowski !» Voilà. Donc, il raconte cette scène d'ivresse avec une fascination. Peut-être avez-vous vécu ce moment télévisuel, peut-être pourrez-vous le revivre. Voilà. Maintenant, Bernard Pivot, c'est peut-être la dernière facette du personnage que je vais mettre en évidence, c'est un personnage qui est immensément ironique. Et il emprunte à l'empereur Adrien une citation qui dit « Le pédantisme des grands connaisseurs de crus m'impatiente ». Et alors, véritable pièce d'anthologie, Bernard Pivot écrit, transcrit les commentaires un peu imaginaires, mais tellement réels, de connaisseurs qui sont en train de déguster et qui commencent à ratiociner de manière savantissime. Voilà ce qu'il écrit, ouvrons les guillemets. Donc le grand connaisseur, le grand expert s'exprime ainsi. « Nous sommes sur une gamme florale assez étendue et complexe où nous distinguons bien le tilleul, le jasmin, la capucine, l'angélique, l'acacia, la camomille, le mélilot avec des touches de pivoine séchée et peut-être même de fleurs de thuya. Quant aux arômes secondaires et tertiaires, qu'il faut savoir mériter par une grande attention et que ce vin, encore trop jeune, ne développe pas dans toute leur diversité, ils sont cependant d'ores et déjà présents avec des notes assez franches dues à la roche granitique particulièrement bien exposée au sud-sud-est de litchi, de mangue, de figue, de pamplemousse, à quoi nous ajouterons la pomme caramélisée et la compote de pruneaux, et un soupçon de cannelle et un rien de muscade se sont glissés en raison du bel ensoleillement des vendanges. Voilà. Donc, Bernard Pivot ridiculise ceux qui jouent les grands connaisseurs, les grands prêtres du vin, les grands experts, etc. Et nous revenons à la simplicité. Le vin, pour vous, doit être un acte individuel. Vous osez dire ce que vous en pensez. Vous n'êtes pas obligé d'être érudit. Voilà, eh bien, l'émission Nectar partage complètement la philosophie de Bernard Pivot et lui rend encore une fois hommage. À bientôt, chers auditeurs.